France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Quelle semaine ! Semaine qui aura vu la nette victoire de Jair Bolsonaro à la présidentielle brésilienne. Aux États-Unis, à quelques jours des élections de mi-mandat, après une série de bombes envoyées à des figures démocrates, après une tuerie dans la synagogue de Pittsburgh, le président Trump a décidé de déployer l'armée à la frontière américano-mexicaine pour bloquer une caravane de migrants et s'attaque au droit du sol, garanti par la Constitution, mais il veut imposer une nouvelle lecture du texte fondateur. Trump a prononcé quelques paroles de circonstance, puis accusé les médias d'être responsables de ce climat que certains qualifient de guerre civile froide. J'arrête là la chronique des paliers qui sont franchis jour après jour, un à un, pour vous décrire la une de Télérama, un joli cimetière fleuri, une tombe, c'est celle des démocraties. Bonjour Dominique Régnier.
Bonjour Nicolas Demorand.
Politologue, professeur des universités à Sciences Po, directeur général de la Fondapol. Dans ce contexte, dans cette semaine, Emmanuel Macron a déclaré qu'il était, je le cite, frappé par la ressemblance entre le moment que nous vivons et celui de l'entre-deux-guerres. On voit presque méthodiquement se réarticuler tout ce qui a rythmé la vie de l'Europe de l'après-première guerre mondiale à la crise de 29. L'Europe est face à un risque, dit le président de la République, celui de se démembrer par la lèpre nationaliste. Vous partagez le constat ?
Pas entièrement. Il y a des points communs avec les années 30 qui sont la fragilisation des démocraties, le protectionnisme qui fait retour, l'autoritarisme impérialiste de puissances comme la Russie et peut-être aussi à certains égards la Chine, la crise démographique de l'Europe, des conflits qu'on qualifie identitaires, mais il y a aussi beaucoup de différences. Le monde sur le plan économique va bien. Dans les années 30, il allait très mal. L'Europe est encore très riche. Les systèmes sociaux sont menacés, mais sont encore là pour assurer une sorte de traitement social qui fortifie malgré tout l'adhésion au régime. C'est encore quelque chose d'essentiel. Je ne crois pas qu'il y ait en Europe, qu'on puisse dire qu'il y ait en Europe, comme dans les années 30, le risque d'une guerre entre les nations européennes. Par contre, il y a une sorte de cohabitation belliqueuse qui s'est installée, y compris au cœur de nos sociétés, et des formes de violence, chacun le sait, qui se sont multipliées. Quelque chose est en train de se passer. On l'écoutait en vous suivant ce matin, en vous écoutant, c'était très net à l'oreille. Il y a un événement historique de très grande ampleur dans lequel nous sommes pris. C'est une très grande transformation et ce sont les conséquences de cette transformation que nous sommes en train de vivre.
Alors sans doute, Dominique Régnier, les propos du président servent-ils aussi à dramatiser l'enjeu de l'élection européenne ? Il ne cite pas le mot fascisme et il ne faut pas être grand clair pour le voir affleurer dans ses propos. Est-ce que ces propos ont la moindre portée, la moindre efficacité face à la dynamique populiste ? Dire c'est nous ou le chaos, est-ce que ça suffit ?
Non, ça ne suffit pas. Ça fait un moment que ça ne suffit plus d'ailleurs, puisque ces alertes au fond ont été lancées, on s'en souvient en tout cas, pour ceux qui ont vécu ça, on s'en souvient bien, ces alertes ont été lancées il y a maintenant 30 ans, si on prend le cas de la France. Le premier événement en France électorale qui donne le signal du départ, pour prendre celui qui était le plus spectaculaire, c'est quand même 1988, avec ses 14 et quelques pourcents de Jean-Marie Le Pen. Ça n'a pas cessé ensuite d'être un événement à chaque élection présidentielle. Et puis ça s'est propagé à l'échelle de l'Europe. Et à chaque fois, au fond, on a insisté, avec raison sans doute, sur le risque réel que cela comporte, mais ça n'a jamais empêché ce choix protestataire de se répéter, de s'amplifier.
On continue à parler de populisme, Dominique Régnier. Steve Bannon, qui s'y connaît, puisqu'il était l'architecte idéologique de la victoire de Donald Trump, parle lui de national populisme pour le Brésil. Anti-système, restons au Brésil quelques instants, est employé pour décrire Jair Bolsonaro, alors que la majorité du système, les élites économiques, agricoles, l'armée, les églises évangéliques l'ont soutenu, c'est de l'ordre de la magie, non, ou de l'aveuglement, de continuer à penser que ces dirigeants sont issus du peuple et populistes.
Oui, je crois que c'est la grande tromperie qu'il y a dans cette affaire. Si nous considérons que nous sommes dans une époque de grande transformation, la conséquence, c'est que les élites qui sont en place sont déstabilisés et parfois même destitués par ces changements. Des opportunités s'ouvrent. Certains vont essayer de conserver ce pouvoir qui leur échappe. D'autres qui sont à la marge vont essayer de prendre ce pouvoir parce que le monde est en train de changer et qu'il y a des possibilités de prendre le pouvoir. C'est en ce sens que le populisme est une entreprise politique. C'est une technique de conservation du pouvoir ou de prise du pouvoir. Et donc certaines élites en place vont se convertir au populisme pour conserver le pouvoir qui leur échappe. D'autres vont voir la possibilité de prendre le pouvoir en utilisant cette référence au peuple. Et c'est là que nous sommes bernés. Hein, puisque cette référence au peuple est censée, comme par magie, parce que le mot peuple est magique, est censée porter une sincérité que les autres n'ont pas. Et vous l'avez dit, pour Steve Bannon, on peut dire pour Trump, on peut dire pour Marine Le Pen, on peut dire pour Mélenchon, on peut dire pour tous. Ça n'est pas du tout le peuple, évidemment. Ce sont des entrepreneurs politiques et c'est ce qui est aujourd'hui, je dirais, le signe le plus clair de notre époque. Il y a une lutte aujourd'hui très, très certaine pour conserver le pouvoir parce qu'on est poussé par les changements historiques. Une lutte, évidemment, pour essayer de le prendre aussi. C'est ce qui s'est passé au Brésil. Après l'échec des élites précédentes qui ont échoué en matière de criminalité, d'économie et de justice, la corruption est endémique, on le sait, d'autres élites, parfois les mêmes, s'efforcent de changer de cheval ou de changer de discours ou bien d'entrer dans le jeu par ces stratégies populistes.
Aux États-Unis, on voit que les riches sont toujours plus riches, que les dérégulations, les politiques fiscales de l'administration Trump continue à leur profiter. Donc voilà pour les uns, l'un des sommets du spectre. Pour les autres, les électeurs, c'est la force du verbe. C'est ça la division du travail idéologique aujourd'hui ?
Le populisme est certainement une rhétorique. C'est une des caractéristiques du populisme quand on cherche à le définir. Il y a beaucoup d'éléments. Je crois que c'est pas l'objet, sinon vous me le direz. Mais c'est certainement quelque chose comme cela. Maintenant, il est très difficile, et ça c'est un aspect à la fois passionnant et préoccupant. Il est très difficile de caractériser le populisme par son environnement politique tant il s'adapte à toutes les formes possibles. Il peut y avoir ce populisme qui émerge dans un pays comme les États-Unis où la dérégulation, vous venez de le dire, va bon train, mais cela peut aussi émerger dans un pays comme la Suède, on l'a vu récemment, où pourtant l'état social est très développé et le souci de l'égalité est indiscutable, peut-être même le plus élevé au monde.
Ce sont des élections qui portent ces dirigeants au pouvoir. Dire que les électeurs, Dominique Régnier, sont fous, en colère, exaspérés, semble court et méprisant. Quel est, d'après vous, le moteur ? Pas simplement de la colère ou de la rage. C'est quoi le moteur qui fait que ça continue à être désirable et c'est sans doute appelé à le rester ?
Alors, à la question difficile que vous posez, Nicolas Demorand, je ferai cette réponse en forme d'hypothèse. Le changement que nous vivons, moi j'insisterai beaucoup sur cette transition historique, donne le sentiment à beaucoup sur ce continent en particulier que le destin leur échappe, individuel et collectif. Nous n'avons plus de prise sur ce qui nous arrive, et encore moins nous les Européens qui jusque-là donnions le rythme du monde. C'est le monde qui nous impose son rythme, beaucoup d'éléments le font ressentir, et donc les peuples cherchent à retrouver ces instruments, ces outils qui leur permettaient jusqu'ici de peser sur leur destin, ça ne marche plus et c'est une demande de puissance publique. Je ne crois pas, pour ma part, qu'il y ait aujourd'hui en Europe une demande significative de repli nationaliste. Je crois en revanche qu'il y a une demande de puissance publique, une demande d'intervention. Et que de ne pas l'entendre ou de ne pas pouvoir y répondre pourrait conduire dans un deuxième temps à un repli nationaliste qui serait évidemment morbide puisqu'une de grandes caractéristiques aujourd'hui en Europe, c'est un déclin
mais
démographique
l'idée
marqué.
L'idée donc, c'est eux au moins font de la politique.
Alors,
de la vraie.
Il y a un scepticisme aujourd'hui à l'égard même des populistes. Quand on interroge par exemple les Allemands sur leur vote pour l'AFD, ils ne vous disent pas qu'ils font confiance à l'AFD, parti populiste allemand créé en 2013 pour régler les problèmes. Mais ils ont le sentiment que les autres fonds n'y arrivent plus ou n'entendent plus. Et ceux-là, les populistes, ceux-là qui nous disent avec tant de force que eux vont y arriver parce qu'ils vont affirmer l'État, ceux-là peut-être y arriveront davantage. Ça n'est pas un vote enthousiaste. enthousiaste. Mmh. C'est le dernier vote avant la fin, en quelque sorte. Mais si nous ne savons pas répondre à cette demande de puissance publique, qui est la même au Brésil, hein, de la part de classes populaires qui sont dévastées ou de classes moyennes qui sont désormais très profondément menacées, et c'est le cas dans le monde pour les classes moyennes, alors nous aurons l'étape supérieure qui sera le passage à des régimes de plus en plus durs, de plus en plus autoritaires, et sans doute aussi, inévitablement, je le crois, le passage à la violence. Je voudrais juste ajouter ce point. Le problème avec les populistes au pouvoir, on ne sait pas très bien s'ils sont capables de rendre le pouvoir en cas d'échec. C'est ça la grande différence. Nos partis politiques de droite et de gauche savent rendre le pouvoir lorsqu'ils échouent, savent respecter les règles. Évidemment, la question qui se pose, c'est ces partis-là, une fois au pouvoir, sauront-ils rendre le pouvoir s'ils échouent? Accepteront-ils que l'on puisse dire qu'ils échouent? Respecteront-ils les règles qui les ont portés au pouvoir pour le rendre à nouveau?
Oui, parce qu'ils les modifient, les règles.
Ils les modifient.
C'est, en
le
attendant.
Cas, c'est le cas de la Hongrie, par exemple, où on modifie beaucoup les règles pour favoriser la reconduite de la majorité du Fidesz.
Pourquoi, Dominique Reynier, dites-vous que la démographie est si importante dans cette équation?
Je pense que c'est la clé, une des clés majeures, parce que nous avons, si nous prenons le continent européen, nous avons un vieillissement démographique spectaculairement marqué et définitif. À partir de 2015, il y a plus de décès que de naissances. Cela crée une mentalité, cela favorise une culture très craintive, très fermé aux innovations, en tout cas de plus en plus fermé au changement, et le monde est saturé de changements. Et puis cela pèse sur les budgets sociaux, cela amène à des réformes profondes qui sont des réformes désagréables et qui vont au fond rompre le lien de confiance entre les gouvernés et leurs gouvernants dans les systèmes démocratiques. Et puis on peut ajouter que ça ouvre évidemment la question de l'immigration. La crise démographique appelle une immigration en termes, je dirais, purement de compensation. Et là nous avons ces conflits interculturels qui se multiplient. La question de l'immigration en Europe est une question qui nous associe immédiatement à la cohabitation avec des cultures différentes, en particulier issus de pays à culture musulmane, les différences sur les valeurs, le problème de l'islamisme, le problème du terrorisme. Et par étapes, on voit bien comment se met en place cette espèce de combinaison qui contient plusieurs fagots pour faire monter la chaudière à très haute température.
Dominique Reynier, donc les européennes sont devant nous, l'Europe est parcourue par ce que décrivait Emmanuel Macron tout à l'heure, mais Orban dirait tout à fait autre chose, mais en tout cas elle est parcourue par une immense tension, avec le risque peut-être qu'elle se désagrège. Est-ce que l'euro, la monnaie, n'est pas le dernier rempart de l'Europe?
Moi, je le crois. C'est d'ailleurs un point qui fait que nous ne sommes pas dans les années 30. Vous savez que dans les années 30, la crise des monnaies a été un facteur de ce qui s'est passé ensuite. L'euro tient bon. Et s'il y a, je le crois vraiment, Nicolas de Morand, c'était important d'insister là-dessus, s'il y a dans l'espace européen une ceinture de sécurité, quelque chose qui retient encore dans la population ce vote de rupture qu'est le vote populiste, c'est la volonté de protéger son patrimoine personnel pour le transmettre à ses enfants lorsqu'il est en euros, parce que l'on sait bien, même si la nostalgie peut habiter certains esprits, revenir au franc ou autre, eh bien on sait que sa valeur de son patrimoine est supérieure à un euro, et donc on ne suivra pas des partis populistes qui proposeraient d'abandonner cette monnaie commune. Ça a été l'erreur de Marine Le Pen. C'est l'épreuve de vérité pour Salvini et Di Maio en Italie.
Donc on peut détester l'Europe et ne pas vouloir en sortir.
Oui, et ça veut dire que nous en sommes aussi à un point qui est la dernière étape. C'est moins la cause européenne qui vous motive que l'intérêt matériel. Alors c'est pas indigne, mais c'est la dernière chose. Et ça veut dire aussi que c'est une bonne raison de rester attaché à l'Europe et aux démocraties qui la composent et d'avoir un vote raisonnable. Mais si cet euro est fragilisé, s'il chancelle, il n'y aura plus rien, Nicolas de Morand, et ce sera la grande vague. Et là, aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe en Allemagne, avec la fragilisation des forces pro-européenne et pro-euro, malgré tout. C'est un peu difficile de le voir aujourd'hui clairement, mais enfin, ça s'est beaucoup dégradé depuis un an à peu près sur le plan électoral, et c'est la fin pour Angela Merkel. Eh bien, on a une raison de se préoccuper de l'avenir de cette monnaie européenne. C'est le dernier rempart. S'il saute, on peut vraiment craindre le pire.
Vous êtes inquiet, vous avez peur,
Dominique? Moi, je suis très inquiet, Nicolas de Morand, depuis quelques années. On a déjà eu l'occasion d'ailleurs d'échanger. Je suis, à travers ces échanges, au fond, la manière dont ma préoccupation est évolue. Je suis inquiet parce que je vois maintenant arriver la violence, la vraie violence, la violence physique. Je trouve que nous y sommes de plus en plus chaque jour. Et ça, c'est l'étape quand même qui montre que nous changeons la nature du problème.
La parole aux auditeurs de France Inter. On poursuit ce dialogue avec vous. Bonjour Marc.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Merci. J'apprécie énormément ce que vous dites ce matin et on parle de violence, vous venez de parler de violence, mais est-ce que, en parlant du Brésil, est-ce que ça n'est pas la gauche qui est dans la violence et dans la haine avec l'attentat contre Bolsonaro? Et est-ce que le résultat des élections au Brésil n'est pas simplement l'échec patent du Parti des Travailleurs qui a plongé le Brésil dans la pire crise économique depuis 50 ans, où il y a un chômage de masse épouvantable, une paupérisation, une insécurité terrible avec 62 000 morts en 2017. Mmh. Est-ce que ça n'est pas l'échec, comme c'est l'échec au Venezuela, dont peu de gens parlent, où effectivement des millions de personnes fuient un pays qui est d'une richesse extraordinaire, avec son pétrole, son eau, son électricité? Est-ce qu'on n'inverse pas les choses? Est-ce que le paupérisme de gauche n'est pas pire que le paupérisme de droite?
Merci Marc pour cette question, Dominique Régnier.
Oui, on l'a dit peut-être trop rapidement, mais il est certain que ces ruptures électorales ont des causes générales, transition historique et des causes particulières à chacune des nations. Pour le Brésil, oui, on l'avait souligné ensemble tout à l'heure, il y a la crise économique pour un pays émergent qui était sûr de toucher à la prospérité, l'effondrement, en particulier au sein des classes moyennes, la criminalité, vous l'avez dit, et puis le haut niveau de corruption avec le Parti des Travailleurs, on l'a vu, et Lula, on peut le rappeler, est en prison. Oui, ce sont des causes sans aucun doute.
Oui, et puis l'effondrement du coup de l'offre politique.
L'effondrement de l'offre politique, l'absence d'alternative, c'est quelque chose qu'on a vu d'ailleurs aussi au fond. D'une certaine manière, on a vu ça déjà aux États-Unis avec la campagne de 2016.
Caroline est en ligne. Bonjour et bienvenue sur Inter, Caroline.
Merci beaucoup, bonjour. Je voudrais revenir sur le choix de Bolsonaro de désigner Jérusalem comme capitale d'Israël. Et ça m'inquiète beaucoup. Et je pense que comme pour Trump, il est moins question de satisfaire les intérêts d'Israël que de satisfaire l'électorat évangéliste. Je pose donc la question de l'influence croissante des religions, enfin du religieux dans ces nouveaux régimes, mais aussi dans la fragilisation de la démocratie, comme vous l'aviez évoqué, Monsieur Régnier. Et puis en question subsidiaire sur le plan européen, vous avez dit, Monsieur Demorand, que l'euro est le dernier rempart de l'Europe. Moi, je voulais savoir si la laïcité française constitue le dernier rempart contre le populisme.
Merci, Caroline, pour cette double question. Dominique Régnier.
Oui, merci, madame. C'est un évidemment, la décision de Bolsonaro manifeste aussi l'alignement du Brésil sur la diplomatie de Trump, clairement. Et on sait que Trump s'est réjoui de l'élection de Bolsonaro. On verra ce que ça signifie tout cela plus tard. Vous avez raison d'insister sur l'influence des évangélistes. Et vous avez raison d'insister sur l'influence croissante de la référence religieuse. C'est une tendance que l'on n'étudie pas assez, surtout en France, ou dont on ne discute pas suffisamment. Surtout en France, pays tellement sécularisé, laïque, le monde est plus religieux. La globalisation a pour conséquence un retour du religieux. Dans le monde aujourd'hui, il y a une affirmation du fait religieux. Alors, je ne vous embêterai pas avec des références, il y a des données à ce sujet. Il est possible que dans un futur, à l'échelle d'une vie, on voit à nouveau la sécularisation gagner du terrain dans le monde. Mais aujourd'hui, pour des raisons démographiques et de développement économique, il y a de plus en plus de religions dans le monde, et s'il y a un pays qui est surpris par ça et mal à l'aise, c'est la France à l'effet.
Ahmed est au standard. Bienvenue, on vous écoute.
Bonjour, merci.
Bonjour.
J'ai deux petites questions pour M. Régnier. La première, c'est est-ce que vous ne pouvez pas un peu réviser et affiner votre point de vue? Vous avez tout à l'heure inclus Mélenchon parmi un groupe où il y a Bolsonaro, Salvini, Trump. Je vais vous dire, sincèrement, c'est un peu insultant pour nous, militants insoumis. On n'est ni raciste ni sexiste. Donc vous pourrez trouver des petits points communs, mais je pense que là, il faut affiner un petit peu les choses. Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous faites toujours partie de la, si ce n'est du parti LR, mais de la mouvance? Parce que Nicolas Demorand vous a présenté comme politologue, certes, mais je pense que vous êtes aussi engagé à droite, puisque vous étiez candidat Je crois que c'était aux élections européennes. Voilà mes questions.
Merci beaucoup, Ahmed, de les poser. Il y en a deux. Dominique Régnier vous répond.
Oui, sur la deuxième partie, j'étais candidat au régional en 2015, sans carte de parti au moment de la primaire que j'ai gagnée. J'ai pris ensuite ma carte en 2015, que je n'ai pas renouvelée depuis. Je ne suis plus élu, je n'ai pas de mandat, et donc je ne suis plus membre d'un parti. Ça, c'est pour cet aspect-là. Sur le premier point, je sais que c'est désagréable à entendre, et ça suscite souvent cette réaction que je peux comprendre, mais Jean-Luc Mélenchon appartient clairement à la catégorie des populistes. D'ailleurs, il s'en est réclamé lui-même explicitement dans son livre « Qu'ils s'en aillent tous ». Il l'a dit, il l'a même écrit. Et sur son rapport à l'universalité, il a beaucoup évolué. Je vous rappelle que en 2004, il était fédéraliste et pour l'entrée de la Turquie dans l'Union. Depuis, les choses ont beaucoup changé. Et quelques-unes de ses déclarations nous amènent quand même à nous interroger, y compris sur ce point-là. Vous vous souvenez de sa déclaration au Parlement européen sur les travailleurs étrangers qui venaient voler le pain des travailleurs français. Bon, on pourrait développer cet aspect-là. Ça, c'est un populisme de gauche, Jean-Luc Mélenchon. Je définis la différence entre les deux. Ça, peut-être que ça vous satisfera de l'entendre ainsi. Le populisme de gauche fait comme le populisme de droite une coupure très sommaire entre les élites et le peuple sans jamais vraiment les définir. Le populisme de droite ajoute une coupure qui est verticale entre le peuple d'ici et le peuple de l'extérieur. Jean-Luc Mélenchon appartient à la tradition du populisme de gauche.
Un tweet, un mail. Philippe dit la chose suivante. Dominique Régnier définit le populisme. Un de ses amis des Républicains s'appelle Laurent Wauquiez. Qui synthétise à merveille ce qu'est le populisme. Le mail vous demande si vous mettez Wauquiez dans le camp des populistes.
Alors, dans un système comme le nôtre, un système démocratique, une des grandes difficultés, le populisme étant fondé sur l'appel au peuple, après il faudrait détailler, on ne pourra pas le faire j'imagine, il y a un rapport ambigu avec la référence démocratique. Dans toute la non-démocratie, il y a une permanence du populisme, nous sommes toujours très proches du populisme, tous les partis ont des moments populistes, tous les leaders de partis ont des moments populistes, plus ou moins constants, et il est certain que chez Laurent... Plus ou moins bien élevé.
Il y a du populisme. Populisme de salon aussi,
absolument,
plus léger.
Absolument, le populisme médiatique, etc. C'est quelque chose qui est très consubstantiel dans nos sociétés, alors démocratiques, mais aussi de masse, qui ne sont pas nécessairement démocratiques. Et il est certain que chez Laurent Wauquiez, il y a aussi, bien sûr, des moments populistes, comme chez ses concurrents, peut-être plus à tel ou tel moment.
Alors, je cherche la question, la voilà, la question de Pauline. Voit-il le Rassemblement National arriver au pouvoir, Dominique Régnier? Qu'en est-il de Marion Maréchal Le Pen? Constitue-t-elle une plus grande menace que sa tante? A-t-elle une chance d'accéder au pouvoir en 2022? Je vous livre l'ensemble des questions.
Alors, Pauline. Il y a quelque chose sur quoi on doit tous méditer. Nous avons un système institutionnel en France, l'élection du chef de l'État au suffrage universel direct. Chacun aura déjà entendu plusieurs fois dans sa vie, même en étant un jeune citoyen, que c'était la rencontre entre un homme et un peuple. On a un système institutionnel particulièrement favorable à l'aventure populiste. Il les a contenus aux marges jusqu'à présent parce que certains niveaux n'étaient pas dépassés. Il n'est pas exclu que, à partir d'un niveau, et nous n'en sommes pas loin, c'est le contraire qui puisse s'opérer, c'est-à-dire une bascule qui littéralement porterait les populistes au pouvoir. Aujourd'hui, c'est un populisme de droite qui est le plus à même de franchir cette barre. On l'a déjà vu deux fois au second tour à l'élection présidentielle. Je le redis, le dernier élément qui tient encore, c'est l'euro. Une crise de l'euro donnerait certainement l'élan supplémentaire pour franchir cette étape qui pourrait donner le pouvoir aux populistes. Certainement plutôt le Rassemblement National que la France Insoumise. Et Marion Maréchal, comme Marine Le Pen, sont sur cette aile-là et elles s'efforcent, j'imagine, d'y aller.
Une dernière question, Dominique Régnier. Quand on voit l'impuissance du journalisme, c'est absolument pas une question corporatiste, mais cette impuissance du journalisme au sens classique ou ancien, on voit que c'est un élément de l'équation. Aux États-Unis, dire ceci est factuellement faux quand le président Trump dit quelque chose, c'est soit pris pour une attitude partisane, soit totalement inutile. On voit aussi pour la science, le même type de raisonnement sur l'environnement. Non, il n'y a pas de réchauffement climatique. Les populistes autrichiens qui disent l'interdiction de fumer, on la repousse, on laisse fumer les gens, qu'importe les problèmes sur la santé. Que peut une démocratie quand on n'est plus d'accord sur les faits?
Non,
c'est vertigineux.
C'est vertigineux. Et cette nouvelle configuration médiatique, le web, les réseaux sociaux qui sont, là aussi, l'ambivalence extraordinairement riche et qui apporte énormément de connaissances et de partage, c'est un point extraordinairement positif. Par un autre côté, sont en train de saper les capacités que nous avons de nous parler, polarisent les débats, on le sait bien, radicalisent tous les propos, quel que soit le domaine, rendent presque impossible la fabrication des compromis, destituent les expertises et les compétences, chacun valant chacun, ce qui n'est pas vrai, mais enfin, c'est ainsi, et donc nous mettent dans une grande difficulté. On n'a jamais pensé la démocratie, depuis qu'elle est pensée, on ne l'a jamais pensée sans un espace public capable d'organiser un débat raisonnable et documenté. Mmh. Aujourd'hui, nous faisons cette expérience, nous ne sommes pas sûrs d'y arriver, et c'est ce que disait au fond, c'est ce qui moi me rend pessimiste, c'est ce que disait Machiavel en quelque sorte, toute forme de régime a un terme à son histoire, car ce ne sont que des constructions humaines.
Dominique Régnier, merci d'avoir
Demorand.
Été au micro d'Inter ce matin. Politologue, professeur des universités à Sciences Po, directeur général du think tank Fondapol. 8h46, le carrefour du 7-9, à suivre.